Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. Et ce soir, on vous emmène au Mali, puisqu'il y a eu un coup d'État le 22 mars 2012. 22 mars 2012, personne ne s'y attendait. À un mois de l'élection présidentielle, le Mali a vécu un coup d'État. Inattendu. Une partie des militaires s'est mutinée pour protester contre le manque de moyens octroyés par l'État pour faire face à la rébellion Touareg au nord du Mali. Une rébellion active à nouveau depuis la fin du mois de janvier 2012. 22 mars 2012, les militaires occupent l'ORTM, la télévision d'État, puis le palais présidentiel, laissé vacant. Le président Amadou Toumani Touré, communément appelé ATT, qui devait terminer son deuxième mandat le mois suivant, est donc écarté du pouvoir et les putschistes prennent les commandes du pays, suspendent la constitution et destituent toutes les institutions. Je reviens tout juste de Bamako et je vous propose de vous faire revivre cette semaine très particulière depuis l'intérieur de la capitale. J'y ai rencontré Fadima, Gaï, Modi, Ousmane, Cheikh et Abdelkader, des Bamakois parmi d'autres qui m'ont livré leur point de vue. Mercredi 21 mars 2012, journée paisible à Bamako. Comme tout bon Bamakois, on circule à travers la ville en moto de Jakarta, dans la circulation dense, des voitures, des taxis, sautramas, sortes de petits bus très lents, charrettes en tout genre et motos innombrables.
Bébé !
Et l'on se pose devant la maison pour boire du thé gazelle. En fin de journée, alors qu'on boit le thé, violente détonation. Awa, à côté de moi, pousse un cri et pose ma main sur son cœur. Pulsation accélérée. Sans radio ni télé, nous ne savons rien encore. Nous n'irons pas chez l'ami Gaï ce soir. Tout le monde rentre chez soi. Dur de dormir, l'oreille en alerte. Quelques tirs se font entendre dans la nuit. Bamako, jeudi 22 mars 2012. J'apprends qu'il y a eu un coup d'État. ATT est parti et les militaires ont pris le pouvoir. Dans le quartier, les gens vaquent à leurs occupations, comme à l'ordinaire. On dirait que rien ne s'est passé, comme si la sphère politique ne changeait rien à la vie quotidienne des gens. Tout de même, présence de militaires en armes dans les rues, même dans les rues sans goudron. Ils circulent à moto ou en camion. La ville est plutôt calme, même si un peu d'inquiétude plane. Les enfants n'ont pas d'école, le travail est arrêté, le grand marché fermé. On limite les déplacements, on reste dans le quartier. Mais beaucoup de gens circulent à moto, à peu près comme d'habitude. Bamako est loin d'être une ville morte. On entend parler d'actes de pillage. Le père d'un ami s'est fait confisquer son véhicule avec sa carte grise. On entend dire que les stations-service se sont fait piller. Des magasins aussi, par des bandits ou par les militaires eux-mêmes. Le soir, c'est en allumant la télévision et en regardant la chaîne officielle, l'ORTM, que l'on découvre le visage des putschistes. On apprend qu'ils ont formé le CNRDR, Comité National pour le Redressement de la Démocratie et la Restauration de l'État, au nom imprononçable de CNRDR ou CNRDRE. Voici quelques extraits.
Communiqué du Comité National pour le Redressement, la Démocratie et la Restauration de l'État, CNRDR. Mes chers compatriotes, considérant l'incapacité notoire du régime à gérer la crise qui sévit au nord du Mali, considérant l'inaction du gouvernement à doter de moyens adéquats les forces armées et de sécurité pour accomplir leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, considérant le climat d'incertitude créé et entretenu par le pouvoir pour la tenue des élections générales de 2012, considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, le CNRDR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, la Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Très chers compatriotes, l'objectif du CNRDR ne vise en aucun cas une confiscation du pouvoir et nous prenons l'engagement solennel de restaurer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Vive le Mali, vive le CNRDR. Je vous remercie.
Communiqué numéro 2 du Conseil national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État. Nous demandons à la population malienne de rester sereine et de garder son calme. Nous condamnons fermement tout acte de vandalisme ou de pillage. Nous invitons tout un chacun au respect des institutions de l'État et du bien public. Du bien public et privé. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires et utiles pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. À nos camarades des forces armées et de sécurité, de ne pas perturber la quiétude d'une population à laquelle elle doit respect, défense et assurer toute leur quiétude. Restons unis et forts. Ailleurs, un couvre-feu est décrété à partir de ce jour, jeudi 22 mars, à partir de 06h, et cela jusqu'à nouvel ordre, signé Capitaine Sanogo, président du Comité national de redressement de la démocratie et de la réforme. Merci.
Voilà, on l'apprend à la télévision, couvre-feu donc à partir de 18h. Certains rentrent chez soi, d'autres restent dehors. Le soir, la nuit tombée, quelques personnes marchent dans la rue, des enfants jouent. Des tirs toute la nuit, impressionnant, peur au ventre. Vendredi 23 mars, après une nuit agitée, journée calme. La tension retombe. On circule dans le quartier la journée. Dans mon quartier, le quartier de l'Hippodrome, je rencontre Fadima. Elle est patronne d'un salon de coiffure en plein centre-ville. Elle a fermé son salon par peur des pillages. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis 2 jours. Je lui demande ce qu'elle pense du coup d'État.
Bonjour, je m'appelle Fadima, je vis à Bamako.
Et comment tu as réagi par rapport à l'événement qui s'est passé il y a quelques jours au sujet de ce coup d'État? Quelle a été ta réaction?
J'étais un peu dessus quand même, parce que le Mali c'est bon, mais fait au fait que j'aime bien vivre au Mali, c'est parce que y a la tranquillité par rapport à certains pays que je connais. Et c'est dommage quand même que ça se passe comme ça. Parce que du moment où ATT il a dit qu'il partait, je pense qu'on pouvait au moins lui laisser le temps que les élections se passent comme prévu et qu'il parte, au cas où il ne partait pas. Ce qui fait que ça veut dire qu'il va changer de, il va changer de constitution, comme certains l'ont fait aussi d'ailleurs. Et ben, en ce moment, ben, il pouvait aussi réagir peut-être de cette façon-là, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de réagir de cette sorte. Voilà.
C'est-à-dire ce coup d'État, toi, ça ne te paraît pas du tout, c'était pas le moment en tout
non,
cas.
Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ce n'est pas normal.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu as peur qu'avec ce coup d'État, tu as peur des conséquences ?
Voilà, j'ai peur des conséquences parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine.
Les militaires ont dit qu'ils rendraient le pouvoir et qu'ils organiseraient les élections.
Bon, c'est ce qui a été dit, mais qu'est-ce qui sera fait ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont respecter leurs paroles ? Ça, j'ai un doute. C'est ça qui fait peur, en fait. Ça fait peur. Et là, maintenant, il y a aussi des bandits qui profitent de la situation, qui cassent et des boutiques, des magasins, des restaurants et tout. Et sans compter les feux rouges, les feux qu'ils ont mis sur le goudron, ça, c'est pour le Mali. C'est pas pour ATT, c'est pour le Mali. C'est pour, c'est pour nous situer sur la circulation. C'est au rouge, tu dois t'arrêter. C'est au vert, tu dois passer. Mais s'il n'y a plus ça...
Ça veut dire que s'il n'y a plus de règles, bah toi,
oui.
ça t'inquiète.
Oui, ça m'inquiète. Parce que s'il n'y a plus de règles, ça m'inquiète. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et là, tu es sortie un peu de ton quartier ces derniers jours ?
Non, pas du tout. Je suis restée à la maison. Ben, c'est ce qu'ils nous conseillent de rester. Mm-hmm. Bon, on reste à la maison. Voilà.
À ton avis, quelles peuvent être les conséquences ? Quelle suite on peut imaginer à ce coup d'État ?
Surtout la guerre civile, c'est ça. C'est de ça que j'ai peur. On ne sait jamais. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine.
Pourquoi il y aurait une guerre civile ? Là, je vois que la population, notamment dans les quartiers, ne réagisse pas forcément. C'est très calme ici à Bamako.
C'est comme ça l'Afrique. C'est quand c'est calme que ça doit faire peur. Si tu te rappelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était calme aujourd'hui. Et le lendemain, il y avait 100 et quelques morts quand même. Pourtant, c'était calme. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit qu'en Afrique, quand c'est calme, c'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que tu ne sais pas quand ils vont se lever, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller.
Voilà, on a entendu Fadima inquiète de la situation. Elle parlait des actes de pillage. Et ce vendredi 23 mars, on craint une difficulté à trouver de l'essence parce que les stations-service sont fermées. Mais Guy et son ami Maudit ont entendu dire qu'on pouvait se ravitailler en essence par des vendeurs à la sauvette. Ils s'y sont rendus, ont attendu dans des files d'attente, mais n'ont pas pu faire le plein. Le prix a flambé. Le litre d'ordinaire à 700 francs CFA est monté à 1250 francs CFA. Bon, ça permet toutefois de rouler à moto. J'en profite pour demander à Guy et à Maudit ce qu'ils pensent du coup d'État.
Bon, moi c'est Guy Gandega, je suis à Bamako à l'hippodrome. Moi personnellement, je suis très très content de ce coup d'État. Parce qu'on n'en a plus marre de ATT. Parce que bon, depuis que ces rebelles ont commencé à se manifester au nord, on a tué beaucoup de gens, beaucoup de militaires. Parce que les armées n'ont pas des armes pour faire face, on n'a pas des moyens nécessaires pour faire face aux Touaregs, n'est-ce pas? Donc bon, on les voyait mal quoi. Ce coup d'État, moi je vois que c'est juste. Ça me fait plaisir aussi de faire descendre la tête comme ça. On l'a fait rentrer par la grande porte, et la faire sortir par la fenêtre, c'est bien. Mais dans tous les cas, bon, avec tous les Maliens, on va rester derrière le CNDR. Pour que les aider à accomplir leurs tâches, après à rendre le pouvoir aux civils. C'est ça, monsieur.
Toi, tu penses qu'ils vont rendre le pouvoir, qu'ils vont respecter leurs paroles ?
Bon, dans tous les cas, bon, c'est ça le souhait du Malien quand même. C'est ça le souhait de tous les Maliens. Comme on voyait au Niger, tout précis, à côté du Mali, bon, on a fait un coup d'État à Tanja, bon, après on a fait des élections, on a rendu le pouvoir aux civils. Bon, c'est le même cas pour le Mali aussi.
Mais tu penses pas qu'on pouvait attendre les élections, justement, puisque ATT ne pouvait pas se représenter ? Tu penses qu'on ne pouvait pas attendre ce moment-là avant d'agir ?
Bon, moi, je peux dire que, bon, on ne pense pas que si ATT avait voulu d'aller, quoi. Il a envie toujours de rester au pouvoir, mais dire à la bouche aux Maliens qu'il veut faire le troisième mandat, c'est difficile, mais il a un autre moyen à le faire, c'est ça. c'est traîner comme ça, faire la guerre dans le pays. S'il y a la guerre au pays, bon. Si le pays est prêt à faire une élection présidentielle, c'est tout le pays qui devrait voter, n'est-ce pas?
Ça veut dire que toi, tu as l'impression, Guy, que ATT faisait tout pour faire traîner les élections, faire traîner le problème au Nord, pour faire traîner les élections et peut-être rester plus longtemps au pouvoir.
C'est ça, tout à fait. Ils voulaient traîner pour mieux rester encore, faire quelques mois ou quelques années encore. On va dire que, bon, parce qu'il y a la guerre au pays, les élections n'auront pas par lieu, on fixe les dates, on reporte. Bon, ça nous donne le temps de rester encore. Bon, c'est ça, bon. Moi, je vois que l'armée a vu ça, bon. Donc, on a fait ce coup d'État. Donc, on le fait descendre, on fait nos élections comme on veut. On fait face à l'armée, on fait face aux rebelles. Comment? Soit faire des dialogues avec des rebelles ou... Si les rebelles n'acceptent pas de dialoguer, bon... C'est les militaires qui vont se faire face. C'est ça.
Bon, je m'appelle Moudi. Je vis dans le quartier l'Hippodrome à Bamako.
Voilà. Comment tu as réagi à ce coup d'État?
Bah moi j'étais pas surpris en fait, puisque vu la situation au nord du Mali, la manière dont les rebelles tuent l'armée malienne depuis des mois, et ATT il est au pouvoir, il dit rien par rapport à cette guerre. Bon, il dit quelque chose, mais il donne pas les moyens à l'armée de combattre cette rébellion. Pour combattre cette rébellion venue après la fin du régime Kadhafi. Voilà.
Est-ce que tu penses que c'était la solution à un mois des élections de faire ce coup d'État?
Bah, la solution, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'était une bonne solution ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment pour l'armée qu'ils ont fait cette coup d'État à ATT. Parce que vu la situation comme ça, on laisse traîner les choses. ATT voulait aussi faire traîner les choses pour vraiment... Si la crise reste comme ça et qu'on finit pas avec ça, il y aura pas d'élection. Parce qu'on peut pas faire des élections dans un pays où il y a une guerre. Il y a une guerre entre l'armée et une rébellion. C'est impossible. Et après, ça peut aboutir à d'autres conflits, quoi. Voilà.
Et est-ce que tu penses que l'armée a dit qu'elle allait laisser le pouvoir, enfin qu'elle allait rendre le pouvoir, organiser les élections, combattre aussi la rébellion au nord? Est-ce que tu penses que ces objectifs-là vont être tenus?
Bah, tenu, je sais pas, mais en tout cas, là, l'armée, ils ont pris la décision. Ils ont pris la décision vraiment de faire ce coup d'État, d'arrêter ATT, parce qu'ils savent, ils ont ces objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? C'est vraiment instaurer la démocratie. Il y avait une démocratie au Mali, mais instaurer encore plus de démocratie au Mali, et puis finir avec cette rébellion au Nord. Donc, ils ont ces objectifs-là. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de ces objectifs. Mais ils ont fait ces coups d'État. Voyons voir comment ils vont faire pour combattre cette rébellion. Et après, comme ils ont dit publiquement qu'ils vont donner le pouvoir après, donc ils vont organiser des élections libres et transparentes, pour que soit élu un président de la République. Voilà.
Toi, finalement, tu es plutôt satisfait par ce coup d'État?
Je suis satisfait de ce coup d'État parce que au moins, ça nous laisse, ça nous donne une impression que voilà, il y a une armée qui est là, qu'ils sont pas toujours dans le jeu des politiques, ils sont pas aussi dans le jeu du pouvoir en place, tout ce que le pouvoir dit, l'armée exécute. Donc ils ont vu que et c'est dans leurs intérêts de faire ce coup d'État et finir vraiment mettre le pays dans la stabilité, quoi. Voilà.
Alors on l'a entendu, Guy et Modi, eux, sont, contrairement à Fadima, sont satisfaits de ce coup d'État. Parce que, comme beaucoup de Maliens, ils en avaient assez d'ATT. Ils avaient l'impression qu'Amadou Toumani Touré, donc le président déchu, jouait une sorte de double jeu concernant la gestion de la crise au nord du Mali. En faisant semblant de vouloir combattre les rebelles, en mettant l'armée sur le terrain, mais sans leur donner les moyens face aux rebelles. Il y avait aussi l'impression, donc chez la plupart de ces Maliens, que les élections du coup ne pouvaient pas se tenir à la date prévue, en avril. Parce que comment organiser des élections si l'intégrité du territoire n'est pas effective? Autrement dit, si tous les citoyens ne peuvent pas se rendre aux urnes. Donc, beaucoup de Maliens suspectaient ATT de vouloir rester au pouvoir plus longtemps et être de mèche avec les rebelles. Et c'est ce qui peut peut-être expliquer l'absence de réaction défavorable au coup d'État et l'absence surtout de manifestations de soutien de la population en faveur de son président déchu. Au fond, ce coup d'État n'a pas subi de réels désaveux de la part de la population, mais n'a pas non plus suscité de scènes de liesse. Je vous propose maintenant d'écouter le point de vue d'un autre jeune Bamakois, Cheikh, qui lui, au contraire de Modi et de Gaye, est très inquiet du coup d'État.
Je m'appelle Cheikh Saïdibou Konaté, j'habite à Bamako. J'ai 24 ans.
Comment tu as réagi par rapport au coup d'État ?
Franchement, je n'ai pas du tout apprécié parce que le Mali avait beaucoup mûri démocratiquement. Donc avec ce coup d'État, c'est l'image du Mali qui est ternie une bonne fois pour toutes sur le plan international. Donc ce coup d'État, je ne l'ai pas du tout apprécié.
Simplement au niveau de l'image ou ça va plus loin que ça?
Oui, ça va plus loin que ça parce que la preuve est que les institutions internationales, toutes les institutions internationales nous ont lâchés. Donc actuellement, nous nous trouvons dans une crise. Si ça dure, on ne pourra jamais s'en sortir.
Tu as peur qu'il ne puisse pas y avoir d'élection, qu'on ne puisse plus avoir de démocratie?
J'espère que le putschiste, le chef des putschistes, il sera, assez clairvoyant, c'est-à-dire qu'il va accepter de passer à l'ordre constitutionnel. Le mieux qu'il puisse faire pour moi, c'est de passer le pouvoir au président de l'Assemblée nationale et pour mieux se concentrer sur son projet de lutter contre la rébellion au nord.
Pourquoi tu as peur pour la suite?
Ouais, j'ai peur parce que je n'ai jamais vécu ça. Moi, je suis né, j'ai passé toute mon enfance dans la démocratie. Je n'ai jamais connu aucune forme d'oppression. Je suis né dans un pays, si on peut dire comme ça, libre. Par exemple, moi, j'ai du mal à respecter le couvre-feu. Je sors, j'oublie même des fois qu'il y a un coup d'État. Donc, j'ai peur, je ne suis pas habitué à ça. Et j'espère qu'on va vite revenir à la normale.
Tu as peur qu'il puisse y avoir une dictature militaire, par exemple?
Oui, j'ai très peur de ça parce que dans les années 90, j'étais très jeune. Voilà, il y a les parents qui parlent de ça, c'était très pénible. Il n'y avait pas de liberté, il n'y avait rien du tout par rapport à ça. Et moi, je n'ai pas connu ça. Donc, franchement, j'ai peur de ça.
En même temps, les militaires ont dit qu'ils rendraient le pouvoir et qu'ils organiseraient des élections dès que possible.
Bon, ils l'ont dit, mais est-ce que c'est vrai? Parce que ça se passe comme ça en Afrique. À chaque fois, les gens, ils viennent, les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils disent qu'ils vont vite rendre le pouvoir. Mais on a vu des cas, ils se sont éternisés au pouvoir 10 ans, 20 ans. Donc, c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent.
En même temps, il n'y a pas eu véritablement d'opposition à ce coup d'État. On a l'impression que tout a été très calme et qu'il n'y a pas de véritable voix qui s'élève.
Ouais, ça m'a un peu surpris. Mais disons que le Malien, même lui, il est déçu en fait. Parce qu'à chaque fois, les présidents viennent, ils viennent avec son entourage, ils se remplissent les poches et ils s'en vont. Donc voilà, c'est comme ça au Mali. Les gens sont déçus. Le fait de voir le président arrêté, les ministres arrêtés, les Maliens ont beaucoup aimé ça. Mais quant au fait que de laisser le pouvoir entre les mains des soldats, ça c'est autre chose. Donc moi, je pense que c'est petit à petit que les effets vont se faire sentir. Puisque avec l'abandon des institutions internationales comme la Banque mondiale, etc., je ne sais pas comment eux vont arriver à payer les fonctionnaires. Donc du coup, c'est sûr qu'une fois que les Maliens n'auront rien à manger, ça va créer des problèmes. Le jour où les militaires n'arriveront plus à payer les fonctionnaires, ça va poser des problèmes.
Comment tu vois la suite alors?
La suite, le mieux que le putschiste il puisse faire, le chef des putschistes il puisse faire, c'est de rendre le pouvoir, parce qu'on dit que c'est la Constitution qui a prévu, en cas de vacances du pouvoir, si c'est temporaire, c'est le Premier ministre qui assume l'intérim. Si c'est de façon définitive, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure. Donc le mieux qu'il puisse faire, c'est de rendre le pouvoir au président de l'Assemblée nationale et de se concentrer dans la résolution de la crise au Nord.
Pour ou contre le coup d'État, confiant ou inquiet, finalement tous les trois témoignages qu'on a entendus, Gaye, Modi et Cheikh, sont unanimes pour dire que l'essentiel maintenant, c'est que les militaires consacrent leur énergie à résoudre la crise au Nord. Et oui, la plupart des Maliens, en tout cas que j'ai rencontrés, sont contre cette rébellion au nord du Mali, puisqu'ils ont peur d'une partition du Mali. Or, on sait qu'aujourd'hui, depuis quelques jours en tout cas, la prise de pouvoir par l'armée n'a pas du tout amélioré cette situation au nord, au contraire. Les rebelles ont profité de la vacance du pouvoir et du coup d'État pour s'emparer des territoires et depuis quelques jours, Kidal, Gao, Tombouctou sont tombés. Je parle de la rébellion, en fait on pourrait peut-être même dire les rébellions. C'est assez complexe la situation au nord du Mali, puisqu'en fait on a le mouvement MNLA, qui est le Mouvement National de Libération de la Zawad, qui est un mouvement indépendantiste Touareg, demandant la partition de ce qu'on appelle la Zawad, qui est une région dans le nord du Mali. Mais à ce mouvement qui a des revendications politiques, se greffent aussi d'autres mouvements, comme par exemple le mouvement d'Ansar Dine, qui est un mouvement beaucoup plus extrémiste, qui lui souhaite imposer la charia et a déjà commencé à imposer la charia dans les villes qu'ils ont donc aujourd'hui, dont ils se sont emparés. Et à cela s'ajoutent aussi des membres d'ACMI, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc c'est un phénomène très très complexe. En tout cas, ils sont lourdement armés et ils ont finalement réussi à gagner du territoire. Et le problème aujourd'hui, c'est toujours celui des populations, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés, plus de 100 000, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est assez énorme, et actuellement des difficultés de ravitaillement. Mais revenons à Bamako, quelques jours après le coup d'État du 22 mars. Petit retour en arrière. Samedi 24 mars, journée paisible à Bamako. La vie reprend son cours normal. Bien sûr, on parle beaucoup du coup d'État, mais c'est une vie ordinaire et calme dans la capitale. Le soir, on dirait que le couvre-feu n'existe pas. On dirait que tout Bamako est dans les rues, la nuit. Au loin, musique à forte décibels. Bamako, vous êtes là ? Bamako, vous êtes chaud ? Et Bamako chante et danse le samedi soir, comme si rien ne s'était passé. Dimanche 25 mars. Très peu de militaires dans les rues. Et surtout, c'est bel et bien dimanche à Bamako. Dimanche à Bamako, jour de mariage. Bamako honore sa réputation, mariage dans la ville, voitures et essaims de motos Jakarta klaxonnent et sillonnent les quartiers.
Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et djedis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basins et les bobonnants sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.
On est toujours à Bamako. Ambiance festive le dimanche, malgré le récent coup d'État du 22 mars 2012. Lundi, on est là déjà lundi 26 mars. Un jour férié à résonance particulière pour le Mali, puisque c'est le jour où l'on commémore le 26 mars 91. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, le 26 mars 91, le Mali connaît son deuxième coup d'État. On est sous le régime de Moussa Traoré, un régime militaire. Il est au pouvoir depuis 1968, donc ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Et en mars 91, les populations manifestent, contestant le régime en place. Et ces manifestations sont réprimées par le pouvoir dans le sang, jusqu'au moment où, le 26 mars 91, un coup d'État militaire renverse le régime de Moussa Traoré. Étrange résonance, puisqu'à l'époque, c'était le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, et oui, ATT en personne, qui avait participé au coup d'État et dirigé la transition vers les élections. Jour férié donc pour les Maliens, mais ce 26 mars 2012, quelques rares manifestants défilent pour célébrer ce 26 mars 91. Lundi 26 mars 2012, pour ma part, je sors pour la première fois de mon quartier depuis le coup d'État et je me rends de l'autre côté du fleuve, dans le quartier de Kalabankoura, au sud de Bamako. Je rencontre deux Bamakois qui ont des avis complètement contradictoires sur le coup d'État. C'est dire à quel point la population se questionne sur ce fameux coup d'État. Je rencontre donc Abdelkader, qui est originaire du nord du pays, il est originaire de Gao, et Ousmane. Et on va tout de suite écouter Abdelkader.
Oui, je m'appelle Abdelkader Maïga. Je suis originaire du nord du Mali. Et je suis géologue géomaticien.
Comment avez-vous réagi par rapport au coup d'État ?
En fait, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'il y ait eu un coup d'État parce que depuis un très bon bout de temps, on sait qu'au Mali, nous étions sur une bombe. On ne peut pas dire quand est-ce que ça allait exploser, mais on était sur une bombe.
Comment ça, sur une bombe ?
Vous savez, nous sommes dans un pays à deux poids, deux mesures. Il y a longtemps qu'il y avait trop d'injustice sociale. Il y avait également manque d'autorité d'État. Et après, on s'est rendu compte également que le Mali était cité parmi les mauvais exemples sur la terre, dans la mesure où le nord du Mali est devenu un endroit où se vendait toute la drogue de l'Afrique. Le nord du Mali est devenu sujet à banditisme, à rébellion, jusqu'à ce que le Mali soit classé d'ailleurs en code rouge.
Mais pour autant, comment peut-on expliquer que ça puisse arriver jusqu'à un coup d'État ?
Le coup d'État, en fait, n'était pas prémédité, à mon humble avis. Ce n'était pas du tout prémédité. C'était exactement la réaction des hommes, comme les soldats, je veux dire, qui étaient frustrés, qui étaient dans une situation où leur dignité était bafouée, qui ont voulu faire entendre à leur hiérarchie dans quelles conditions ils sont. Et s'ils veulent que le Mali puisse se laver de cet affront à cause de la rébellion, il faut qu'on leur mette plus dans les droits, qu'on leur donne plus de moyens. Mais malheureusement, nous avons affaire à des militaires. C'est ce que le peuple malien oublie. ATT était un militaire. Le ministre de la Défense est militaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est militaire. Qu'est-ce que vous voulez que ça arrive ? Lorsque un militaire se révolte contre un autre militaire, il n'y a pas autre chose, c'est la voix des armes qui va parler. Lorsqu'ils se sont vus en mesure de pouvoir prendre le pouvoir parce que les gens ont déserté, le président avait peur et qu'ils avaient les berdèmes et tout, en nombre et en matériel, ils sont plus forts. Et bon, certains esprits malins se sont dit, pourquoi ne pas profiter ? Comme le capitaine a eu à le dire d'ailleurs à la télé. Et ils ont profité.
Et vous, vous en pensez quoi ?
C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'à un mois des élections présidentielles, qu'on se retrouve dans un coup d'État. Mais c'est aussi une leçon. C'est une leçon. La démocratie au Mali était mal partie. On était sur une mauvaise base. Il y avait juste les fondements de la démocratie. Mais la démocratie en tant que telle, ce qu'on veut entendre par démocratie n'était plus là. Donc c'est ce qui a amené tous ces troubles dans notre pays.
Est-ce que ça veut dire que quelque part ATT a récolté les fruits de ce qu'il a semé ?
Ah oui, ça c'est le minimum qu'on puisse dire. C'est le minimum qu'on puisse dire parce que il n'a jamais voulu écouter ses collaborateurs. Il s'est vu en maître absolu au Mali comme s'il était dans sa propre famille. Et mieux que cela, vous voyez des indices qui auraient pu alerter n'importe quel chef d'État. Avant la crise libyenne, on savait qu'au nord, rien n'allait. Avec la crise libyenne, on savait officiellement que les militaires maliens des Touaregs ont déserté pour aller combattre aux côtés de Kadhafi. Quand Kadhafi tombe, qu'est-ce qui arrive? C'est des gens qui rentrent chez eux. Le Niger a fermé sa frontière. Le Mali fait quoi, entre-temps? Rien. Atété est là, il les attend comme des héros. Et comme si cela ne suffisait pas, là où au nord, les gens manquent de quoi manger, de quoi boire, il y a l'insécurité pendant une décennie, vous n'avez rien d'autre à faire en tant que chef d'État que d'aller laisser des hommes armés rentrer sur notre territoire, ce qui est d'abord anticonstitutionnel. Et secondo, il va leur donner 50 millions. Avec 50 millions, nous, on aurait pu remplir nos greniers et puis voilà, vivre quand même cette période de soudure.
Est-ce que vous pensez que les militaires au pouvoir pourraient changer les choses concernant cette crise au nord du Mali?
Oui, je le crois fermement. Je le crois. C'est à mon humble avis parce que je me dis, ces militaires n'ont pas de relation directe avec les rebelles. Moi, j'ai une fois, au fond de moi, compris que cette rébellion était nourrie et encouragée par le chef de l'État, lui-même et ses acolytes. C'est des gens qui n'avaient même pas souhaité que ce banditisme-là finisse au nord. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est sûr et certain que c'est un affront personnel, c'est un sursaut d'orgueil qui fait qu'il faut qu'ils mettent fin à la rébellion. Si aujourd'hui on veut que ça marche pour le Mali, il faudrait obligatoirement que les Maliens, de n'importe quel bord politique que ce soit, qu'on se donne la main, qu'on soutienne ces jeunes à aller très rapidement vers des réformes, vers des élections apaisées, les aider à pouvoir asseoir l'autorité de l'État, mais en premier lieu, qu'on les laisse finir avec leur principale mission, qui est la rébellion au nord.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux aujourd'hui, puisque ce coup d'État a eu lieu, être derrière les militaires, les soutenir pour avancer?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de solution. Il ne sert à rien aujourd'hui de venir faire du boucan. Pour de l'eau déjà versée, on fait quoi? On peut ramasser ça et puis la remettre dans une bouteille? C'est fini. Ces militaires vont préférer mourir que de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce serait la fin pour eux. Alors, ce qu'il y a de mieux pour le Mali, que tout le monde se lève, qu'on les aide à redresser le pays, qu'on les aide à faire un gouvernement d'union nationale. Et après ce gouvernement d'union nationale, En ayant en tête qu'on peut réussir à avoir un dialogue franc et constructif, la société civile pourra conseiller ce gouvernement, les putschistes, à aller vers des élections transparentes dans un bref délai. Pour moi, c'est ce qui est aujourd'hui prioritaire pour notre pays.
On vient d'entendre Abdelkader et je vous propose d'écouter le point de vue d'Ousmane, un fonctionnaire qui a connu deux coups d'État au Mali et un troisième.
Donc je suis Ousmane Konaté, professeur de français, j'enseigne au lycée à Bamako.
Comment tu as réagi par rapport au coup d'État qui a eu lieu il y a quelques jours? Quelle a été ta réaction?
Et ça a été d'abord une surprise parce qu'on attendait tout au Mali sauf un coup d'État, surtout après 20 ans de démocratie. Nous avions pensé qu'on avait passé ce cadre-là, mais malheureusement on est retombé dans les travers des pays africains. Bon, donc ça a été une profonde surprise, mais également une grosse déception pour moi parce que je soutiens absolument la démocratisation au Mali et je suis de ceux qui pensaient que l'alternance au pouvoir et au Mali ne posait plus de problème dans la mesure où l'ancien président a nettement déclaré qu'il devait partir à la fin de son mandat. Et d'ailleurs, la constitution malienne qui fixe le mandat à deux seulement et de lui. Donc il n'y avait aucun problème. Il était à quelques mois de son départ, donc ça nous a surpris. Et puis moi je dis qu'il y a une autre façon, surtout au Mali, de prendre le pouvoir, c'est par les urnes et non plus avec les armes. Donc quand ils ont fait un coup d'État, donc moi j'étais absolument contre. Et même si c'est vrai que ATT a commis des erreurs, ben, tous les présidents commettent des erreurs. Hein, donc c'est pourquoi j'étais contre absolument le coup d'État.
Comment vous voyez la suite pour le Mali avec les militaires au pouvoir en ce moment? Comment vous voyez la suite?
Moi, je ne suis pas tranquille, hein, parce que ils ont dit qu'on reviendrait à un ordre constitutionnel normal dès que la paix reviendra dans le Nord. Or, il s'agit de guerre. On ne sait pas qui va gagner la guerre, ni combien de temps il va falloir pour remporter une victoire contre la rébellion. Donc ça peut durer un an, deux ans, trois ans, voire plus. Alors s'il faut attendre tout cela pour mettre en place un gouvernement civil, un gouvernement élu, un président élu et son gouvernement, je crois que ça va... On ne sait pas. On est dans le flou complètement. Depuis quelques jours, on ne voit pas très bien ce à quoi les militaires veulent en venir. Ils n'ont pratiquement pas de programme. Ils ne savent pas que faire. Ils sont en train de s'entretenir avec les responsables des partis politiques, mais on a l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas très bien où aller. Donc ça m'inquiète beaucoup. Vraiment, je suis inquiet pour l'avenir du Mali. En tout cas, l'avenir immédiat.
Y aurait-il un risque de dictature militaire?
Je ne crois plus. Ça, c'est hors de question, parce qu'il suffit de regarder la télé malienne. Il y a certains qui sont très critiques vis-à-vis des militaires. Et ça, c'est un langage très nouveau. Habituellement, quand les militaires prennent le pouvoir, ils n'acceptent aucune contradiction, aucune contestation possible. Or, il y a la contestation au Mali, et des chefs politiques ont déclaré qu'ils étaient contre le coup d'État. Et ensuite, les journalistes vont même plus loin avec ces nouveaux dirigeants qu'avec l'ancien président. Ils osent lui poser des questions s'il n'y aura pas une dictature militaire, et s'ils vont respecter leurs engagements et autres. Non, pour ma part, je suis très serein. Je ne crois pas qu'il puisse être instauré au Mali une dictature militaire. Je ne le crois pas.
C'est étonnant, non, cette réaction ou cette absence de réaction globale. Enfin, la population est très calme. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est très calme ici à Bamako. C'est pas étonnant?
Et c'est très étonnant. Moi, j'ai assisté aux deux premiers coups d'État qui se sont produits au Mali. Lorsqu'on a renversé Modibo, c'était la liesse populaire. Les gens en avaient assez de ce gouvernement, de ce pouvoir. Et là, ils ont manifesté pendant des mois jusqu'à ce que le régime militaire dise aux gens « Allez travailler maintenant, les manifestations, ça suffit ». Alors, en mars 1991, quand il y a eu le coup d'État contre Moussa Traoré, c'était la liesse populaire aussi. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qui vient de se passer. Comme si la population se sentait complètement à l'écart de l'exercice du pouvoir. Il n'y a eu aucune manifestation, aucune. Hein. Moi, j'ai été... Bon, je ne dirais pas que j'ai été surpris, parce que les gens ont été déçus du pouvoir démocratique. Parce que depuis 20 ans qu'on est en démocratie, l'extérieur proclame que le Mali fait partie des pays les plus démocratiques, mais en réalité, ça couvre un malaise extraordinaire. C'est le manque de confiance totale dans les hommes politiques. Et donc, ils se sont dit que ce soit les militaires ou que ce soit autre chose, ce ne sera que ce qu'on a déjà vu. Ces gens-là ne sont au pouvoir que pour s'enrichir, exactement, et ils ne sont pas là pour régler les problèmes du commun des Maliens. Et c'est ça. Je ne suis pas vraiment surpris. Et ça, on le sait depuis longtemps, parce que les différentes consultations électorales qu'il y a eu, la participation du Mali, c'est entre 30 et 40%. Donc les gens ne croient plus que la politique soit de nature à changer quoi que ce soit dans leur opinion, d'où cet attentisme vis-à-vis des nouveaux pouvoirs.
Ousmane, par rapport au nord du Mali, est-ce que vous pensez que le fait que les militaires soient au pouvoir actuellement, ça va pouvoir résoudre la question du nord?
Alors, la question du nord, comme on le sait, hein, c'est un vieux problème qui ressurgit pour la troisième ou la quatrième fois, je crois. Et le problème, en réalité, c'est que le Mali est incapable de soutenir une armée et une guerre. Nous n'avons pas les moyens financiers pour soutenir une guerre. Déjà, la situation économique du pays est catastrophique. On arrive à peine à payer les fonctionnaires. Et déjà, on voit que ce sont les particuliers et quelques sociétés qui font des dons d'argent, de biens aussi, de vivres pour soutenir l'armée. Parce que l'État est à bout de souffle. Donc, que ce soit un pouvoir militaire ou un pouvoir civil, je ne crois pas que ça change grand-chose. Peut-être dans le commandement. Parce qu'on a reproché à Tété de ne pas être totalement engagé dans ce problème-là. Et peut-être dans l'engagement des troupes au nord, oui, il peut y avoir un changement de ce point de vue, puisque ce sont les militaires qui ont le pouvoir, et ils connaissent le terrain, ils peuvent donc prendre les décisions qui s'imposent. Mais à la longue, je crois que ça userait le Mali et ça nous mettrait dans une situation très difficile, parce que nous ne pouvons pas longtemps supporter les frais d'une guerre dans le nord.
Les militaires sont au pouvoir, mais ils n'ont pas énormément de soutien. Est-ce que ça peut tenir ?
Oui, et tant qu'il n'y a pas d'opposition. Parce qu'ils n'ont pas de soutien, mais ils n'ont pas encore d'opposition. Ils n'ont pas non plus d'opposition. Donc, ça peut les gêner un certain temps, mais à la longue, il y a quand même des gens qui ont été écartés du pouvoir de ATT, et ce sont eux qui font les yeux doux actuellement aux militaires. Ils ont déclaré qu'ils sont prêts à travailler avec eux. Ce sont de petits partis, très souvent, mais bon, ces gens-là cherchent des compagnons. Hein. Si les grands partis ne veulent pas s'allier, je crois qu'ils sont prêts à faire le travail avec d'autres. Et puis, dans la société civile, je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont l'amour du pouvoir et qui sont prêts à travailler avec eux. Donc sur ce plan-là, je ne crois pas que ça va poser quelques problèmes juste dans une ou deux semaines. Il y aura le temps de s'adapter, de s'acclimater. Ça peut tourner en rond, mais à la longue, je crois que les gens vont lâcher ATT. Hein. S'il n'y a pas un soutien militaire, une force qui fera une contre-offensive, je ne vois pas pourquoi les militaires ne se maintiendraient pas au pouvoir.
En tout cas, les élections, c'est pas pour maintenant.
Ah non, je crois que pour les élections d'avril, c'est déjà terminé. Et ce sera pour une autre fois parce qu'il n'y a pas de gouvernement en place. Il n'y a rien. Toutes les institutions ont été dissoutes. Alors, je ne vois pas comment en trois semaines, déjà avec ATT, on avait du mal à croire que les élections allaient se dérouler. Et maintenant, avec un pouvoir qui a tout renversé, je ne crois pas qu'on puisse mettre en place les institutions nécessaires pour aller aux élections le 29 avril. Ce n'est pas possible.
Merci Ousmane.
Je vous en prie.
C'était une semaine à Bamako, après le coup d'État du 22 mars 2012, en compagnie de Fadima, Gaye, Modi, Cheikh, Abdelkader et Ousmane. Nous sommes début avril, la situation se tend de plus en plus au Mali avec un double phénomène. D'abord, les rébellions au nord, qui ont pris tout le territoire du nord du Mali depuis quelques jours, ce qui donne des difficultés pour la population sur place en termes de nourriture, de ravitaillement, sachant aussi qu'il y a une branche extrémiste de Ansar Dine qui applique aussi la charia là où elle a occupé les villes. Et d'autre part, il y a aussi le bras de fer engagé par la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. En somme, ce sont les pays voisins du Mali, qui, eux, ne reconnaissent pas le pouvoir militaire et exhortent les militaires à rendre le pouvoir en faisant tout type de pression. Ce bras de fer s'engage puisque les militaires, de leur côté, ne rendent pas le pouvoir pour le moment. Ils n'ont pas donné de date pour rendre le pouvoir aux civils. Et de l'autre côté, eh bien, la pression s'exerce puisque depuis quelques jours, on a un embargo total sur le Mali. Donc les frontières sont fermées, les banques aussi. Et la CEDEAO menace même de faire une intervention militaire pour chasser les putschistes du pouvoir. Dans tous les cas, c'est surtout, et encore et toujours, les populations qui vont pâtir, qu'elles soient au nord ou à Bamako, prises dans les combats ou asphyxiées d'ici une dizaine de jours si la situation ne se débloque pas, par le manque de nourriture, de liquidité, de matériel de soins, etc. Alors, pour un peu d'optimisme pour le Mali, puisqu'il en a besoin, eh bien je vous propose d'écouter un morceau de Boubacar Traoré, un morceau qui s'appelle Mali Tchebaou. C'est un morceau qui rend hommage aux grands hommes du Mali, à tous ceux qui ont construit, qui se sont battus pour le Mali. Et le message qui est lancé, c'est « Les enfants d'aujourd'hui doivent s'unir et continuer à construire le pays ». Mali Tchebaou de Boubacar Traoré. Thank you.
djata ou beminde Olutile bana Da mon son beminde Da mon son tile bana Da mon son beminde Da mon son tile bana Ba bemba ou bemi Ba bemba tile bana Da mon son beminde Jata o beminde olutile bana olutara mali ben tambolo mali de nuno anga bilanga faso bana mali de nuno anga bilanga faso bana muri bonana muri butile bana muri bonana muri boya tilege Nana, Musa Tilebana Alifa Nana, Alifa Tilebana Nedu Nana, Nedile Kera Malinya Moyo, Malinya Momo Lonye Malide Nyo, Malinya Momo Lonye Molonye ala dumbolonye mali denyo anga bilanga faso ba Alifa Nana, Alifa Tilebana nedunana malinya momolonye malidenno anga vilanga baba ne mamulonye ala bulonye ne mamulonye ala bulonye malidenno